carnet de festivalier
sur Radio Scarpe Sensée
au Arras Film Festival.
Papa, t'as zigouillé des Allemands?
Si j'ai zigouillé des Allemands, des centaines.
Qu'est-ce que tu fais là?
Je m'attendais à un accueil un petit peu plus chaleureux.
T'es parti hier, Jeannot.
Hein?
T'as déserté?
Oh, tout de suite les grands.
Réponds.
Oui, on peut le dire.
Arras Film Festival, 26e édition, jour 3. Dimanche 9 novembre, il est 15h20. L'acteur-réalisateur Pascal Elbé est au village du festival. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Après On est fait pour s'entendre en 2021, vous revenez pour présenter votre tout dernier film, La Bonne Étoile, en salle ce mercredi. Vous nous plongez dans une fable où nous sommes en France, en 1940, où nous suivons un Français, Jean Chevalin, et sa famille qui vont se faire passer pour juifs afin de rejoindre plus facilement la zone libre. Entre humour et humanité, vous traitez ce sujet sur les préjugés et sur l'ignorance. Et vous avez choisi d'en faire une fable. Pour vous, est-ce que c'est vraiment une fable ou un conte, ce film ?
Ah, ça c'est une bonne question. Je dirais plutôt un conte qui nous permet parfois de prendre des libertés avec, j'allais dire, la chronologie historique, mais un conte qui nous amène, on va dire, plus rapidement au propos. Donc le conte nous permet parfois des raccourcis et nous permet d'aller, d'arriver un peu plus vite, oui, à ce qu'on essaye de faire passer, évidemment, et de toujours frôler ou caresser cette part d'humanité qu'on a tous en nous. J'aime bien cet aspect-là du conte, oui.
Vous avez écrit l'histoire et vous l'avez réalisée. Comment est venue cette idée?
C'est cette époque que je trouve assez inquiétante, alors il faut y répondre. J'entends des clichés qui perdurent terriblement, qui continuent de blesser, diviser. Et c'est vrai que comment répondre à ça? Et nous, notre métier, c'est de faire ce petit pas de côté parfois et d'arriver avec une proposition, j'allais dire, un peu plus légère et un peu plus décalée de cette période de l'histoire qui est très sombre. Mais j'avais envie de faire comme ces comédies italiennes que j'ai aimées, où on traitait toujours de sujets finalement assez graves, mais avec quand même toujours ce petit pas de côté, cette légèreté qui nous permet de rendre l'histoire respirable. Oui.
C'est l'histoire d'un homme qui veut se faire passer pour juif, car on raconte que certains s'en sortent entre guillemets mieux. Et pour incarner cette histoire, il fallait vraiment un inventeur d'histoire, un menteur comme un arracheur de dents.
Oui, c'est ça, il fallait quelqu'un dont on puisse avoir quand même un peu, j'ai pas une empathie immédiate, mais pas d'antipathie. Et en fait, ce personnage-là, j'allais dire, il fait ce qu'il peut. Il est guidé par l'espoir de s'en sortir et par son ignorance, plus que par, il est plus ignorant et un peu stupide qu'autre chose. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est fondamentalement, raciste ou méchant, mais au contact de l'autre, évidemment, il va s'affranchir un peu de son ignorance et de ses stéréotypes.
Un personnage ignorant, mais vous en faites un personnage aussi joyeux, un personnage humain, il y a beaucoup de vie aussi dans votre film.
Oui, il faut. Parce qu'encore une fois, c'est difficile, et je reprends toujours ces comédies italiennes. Ce qui me plaisait, c'est qu'on ne jugeait pas ces personnages. On les exposait avec lucidité, sans complaisance. Hein. On peut être lâche, on peut être veule, on peut manquer de courage. Pour autant, il ne faut pas les juger, il faut les aimer, ces personnages-là, même quand ils démarrent de très bas, comme mon personnage de Jean Chevalin, bien sûr.
Vous jouez sur les préjugés, sur les juifs donc, pendant la guerre. Cette scène, par exemple, où donc Benoît Poulvord, qui joue ce personnage, imite l'image du juif sur cette affiche de propagande. Voilà, il y a de l'humour, mais derrière, il y a un vrai message, évidemment.
Oui, c'est vrai que c'est bien de divertir, et puis c'est bien s'il en reste un petit peu quelque chose après. Après, je me méfie aussi toujours de quand il y a un message trop frontal à faire passer. Tant mieux que là, ce soit quelque chose qui se diffuse, presque de façon abstraite, comme ça, où on comprend tout doucement où on veut en venir, mais toujours en prenant le spectateur par la main et en l'emmenant faire une promenade. Et évidemment que le propos de ce film, une fois qu'il est dans la salle, il le comprend, sans forcément marteler le propos et faire dire à ses personnages un discours.
Et quelques plans plus tard, une parodie d'affiche, le Führer de vivre. Pourquoi ce choix?
Ah ben c'est toujours pour se dire, attention, ce qu'on vous raconte n'est pas une histoire. L'époque est réelle, cette histoire-là est vraiment passée, mais la petite histoire que je vous raconte, on est quand même, encore une fois, dans une forme d'ironie un peu mordante, grinçante, mais il y a cette ironie au bout. Il ne s'agissait pas de faire un... C'est pas un docu-fiction, c'est pas un film au premier degré. Pour autant, oui, il fallait le traiter. Et c'est ça, j'allais dire, pour moi, le secret d'une bonne tragicomédie à l'italienne, c'est de... C'est ce que je demandais d'ailleurs à mes interprètes, c'est de jouer ça avec beaucoup de sincérité et un premier degré, qu'on soit jamais à distance de ce qu'on raconte. Ça, c'est important.
C'est quoi, déserteur ?
C'est rien, mon chéri. C'est une autre façon de faire la guerre. Il y a une dame de la haute, une baronne, qui planque des juifs. Tu verras qu'à la fin de la guerre, c'est encore eux qui vont s'en sortir le mieux.
Vous voulez que je vous fasse des faux papiers avec une identité juive ?
Voilà.
La démarche est assez inhabituelle, mais...
Après tout, on va répéter. Joseph Sovalevitch, vous êtes juif ?
Ben non.
Bah si !
Si, Philippe, oh, t'arrêtes !
Et vous dites dans une interview que vous aimez le hors-champ. Ici, on en voit pas mal. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le hors-champ ?
Le hors-champ, c'est la confiance qu'on porte au spectateur. C'est-à-dire, comme dans La vie est belle, auquel le film apparemment est souvent référé, quand le père, quand Benigni disparaît, il disparaît hors champ, on entend une rafale de mitraillettes et on sait ce que ça signifie. Parfois, l'allure du conte, justement, c'est de tenir à distance, j'allais dire, une certaine forme de réalisme ou de naturalisme. Le hors champ permet de suggérer, de raconter, tout aussi bien que le in, le off est très important, que ce soit le son, mais que ce soit aussi dans la narration. Et c'est vrai que pour moi, amener les gens, les plus jeunes à aller voir ce film comme un espèce de conte de Noël, un peu grinçant, il fallait parfois tenir à distance tout ce qui était le sang, les morts. On peut raconter tout ça en fait. On peut remuer beaucoup plus fort parfois en le maintenant off.
Et comment on raconte aussi le off aussi en tournage, dans les préparatifs aussi, dans le scénario? Comment on fait vivre ce off?
Le off, faut le faire vivre quand c'est comme convoquer le rire. Le rire vient vous libérer, vient vous soulager. Le off, de la même façon, il doit venir vous interroger. Encore une fois, dès qu'on est dans le propos trop appuyé, dans la démonstration, j'ai l'impression que c'est toujours moins payant que de dire au spectateur, que de le laisser le spectateur presque finir votre réflexion ou vos phrases. C'est vraiment, c'est un principe narratif qui est très important. C'est une grammaire de cinéma qui est importante quand on fait du cinéma, pour moi.
Cette scène, par exemple, où Benoît Poulvorde marche et on entend une explosion au loin. Enfin, on a compris, évidemment.
Bien sûr, on a compris. Et pour autant, j'avais pas envie de le montrer. D'abord parce que c'est une image que j'avais déjà vue mille fois. Là, l'explosion au loin avec le personnage qui avance au ralenti face à la caméra. J'avais envie de dire que Jean Chevalin, finalement, c'est pas un ange vengeur. On n'est pas dans Tarantino non plus, dans Inglourious Basterds. Il fallait montrer que finalement tout ça est au loin et que c'est derrière lui maintenant. Mais voilà, le choix, c'est de montrer un son plus que de montrer une explosion.
Et même votre personnage s'amuse aussi avec le temps. À un moment, comme dans ces films de guerre, on s'y attend à voir l'explosion et puis finalement, ça n'arrive pas au moment prévu. Voilà, vous jouez aussi sur le temps.
Ah mais je joue sur le temps, je joue sur le ressenti. Cette histoire-là, quand vous la regardez de près, elle se passe sur 2-3 jours, alors que quand on vit l'histoire, on a un moment qui se passe des mois et qu'il n'a pas revu ces deux amis-là, ce binôme qu'on forme avec Benoît Poulvorde. On a un moment qu'ils ont été séparés très longtemps, donc c'est comme une pièce de Feydeau, hein, comme j'aime souvent la rappeler. C'est quand on tourne les pages et qu'on suit ça en riz, c'est un page-turner. Quand on tourne vite les pages, on se laisse embarquer dans une aventure et dans l'histoire. Si on commence à tout justifier, on commence à justifier d'un décor à un autre, d'une temporalité à une autre, parfois on alourdit le propos. Donc il faut savoir faire confiance au spectateur, bien sûr.
Il n'est pas juif depuis 2 minutes que tu le persécutes déjà.
Et si ça se trouve, ça va nous offrir plein d'opportunités.
Sur la tête.
Oui, bien sûr, j'avais oublié.
Vous êtes un peu spécial pour un...
Ah, c'est parce que je l'ai appris récemment.
Pas de bol.
Ah, tu l'as dit. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. J'ai apporté... déshonneur et la honte à ma famille.
À l'écriture comme au tournage, il y a un plaisir d'écrire justement sur ce menteur, cet ignorant qui s'engouffre dans son propre mensonge et aller jusqu'au bout.
Pousser le curseur assez loin pour que ce personnage-là finalement se retrouve dos au mur et vraiment confronté à ses stéréotypes, à ses préjugés, même s'il ne le fait pas de façon méchante, il fallait qu'il se rende compte que finalement... Ça peut appeler des gros dommages collatéraux. Et quand il est lui-même confronté à l'illustration de ses mensonges, ben il va comprendre un peu le sens de l'histoire, bien sûr.
Dans ce film, on peut parler à la distribution avec Audrey Lamy, Zabou Breitman, vous, Pascal Elbé, ou encore Hugo Becker. Une belle distribution ici. Hein. Et c'est vrai qu'on voit aussi, et vous aimez aussi cet esprit de troupe. Hein. On le ressent dans ce film.
Oui, c'est important. Bah, c'est souvent les acteurs, hein, quand on passe de l'autre côté de la caméra, on a ce soin à porter même au troisième rôle. Il faut que cette tradition des comédies françaises ou des films français d'époque, où on avait une galerie de second rôle qui était d'abord avec des acteurs qui étaient des ambassadeurs géniaux, mais aussi qui étaient aidés par le texte. Il y avait ce souci des dialoguistes de servir tout le monde. Pour moi, c'est important, ça participe à la réussite d'une histoire, d'un film, c'est que, quel que soit le personnage, il a sa pierre à apporter à l'édifice. C'est pas juste un passage. Même les figurants, ils doivent apporter une réalité, une vérité au propos. En fait, dès que vous rentrez dans le cadre, il faut que ce soit abouti et travaillé.
Une nouvelle page aussi à écrire.
Ah mais de toute façon, une nouvelle aventure, c'est on démarre d'une feuille blanche, hein, d'un ex nihilo comme on dit, c'est à partir de rien et on bâtit une histoire, une aventure. C'est à chaque fois un nouveau défi, on ne sait jamais comment ça va être perçu, reçu. Je suis très heureux j'ai fait une grosse tournée en province qui m'a permis de rencontrer le public, mais je suis très heureux de finir à Arras finalement pour ce festival parce que je connais le public. J'avais vécu une projection, magique quand j'étais venu en effet pour s'entendre. Donc là, c'était important pour moi de revenir à Arras et de me dire que c'est 3 jours avant la sortie du film, ça va me donner de la force. Et on en a besoin.
Voilà. Oui, parce que comment on se sent là? Le film sort mercredi, c'est les dernières séances de présentation avant la sortie grand public.
On se sent toujours évidemment très excité à l'idée de partager le film et aussi très fébrile parce que on espère que ça va plaire, que ça va être vu. Et je ne sais pas comment on gère ça, en fait. Comment on peut... Vous savez, c'est 3-4 ans de travail qui se jouent sur une sortie, une journée. Alors, c'est toujours un moment particulier, ce J-3 ou J-7. C'est le J-. Et c'est vrai qu'on essaye de se rassurer, de se raccrocher aux branches. Mais la meilleure réponse, c'est quand on est devant un public. Et quand je vois les débats qu'on a fait un peu partout en France... Et l'accueil du public était complètement dingue. Alors je me dis, au moins j'ai vécu ces moments-là, mais quand même, on est fragile.
Ce côté presse aussi, c'est ce que vous aimez?
Alors, c'est le moment toujours, on a très peu de temps pour donner envie. C'est pas assommer les spectateurs avec l'idée absolue de son film, c'est plutôt c'est lui donner plutôt l'envie d'aller goûter à cette aventure. Alors il faut être prudent, il faut toujours rester dans cette part de plaisir. Si on prend du plaisir à faire ses émissions et à parler de son film, je pense que les spectateurs ont du plaisir à le voir. Mais c'est cette petite distance à trouver quand on est fébrile. Il faut convoquer toujours parfois le second degré, mais parfois on a du mal hein, quand on est dans cet état-là.
Dans ce film, donc ce personnage veut se faire passer pour juif. Enfin, c'est un défi pour lui. Et vous, en quoi ce film, ça a été un défi pour vous, par rapport aux deux premiers?
C'est un défi parce que c'est un film historique, c'est un défi parce que le propos aujourd'hui résonne très fort, donc il engage un débat qui parfois peut vite devenir passionné. Il faut toujours se méfier de la passion. Et c'est un défi parce que ce film-là, aujourd'hui, de ce que je retiens souvent des retours des spectateurs, c'est que c'est un film qui fait du bien. Alors évidemment, aujourd'hui, arriver avec un film qui fait du bien, c'est déjà, on va dire, c'est qu'on n'a pas si mal travaillé. Mais tout de même, on veut qu'il fasse du bien au plus grand nombre. Et pour que le propos passe, c'est qu'on a eu on a participé à un festival du film historique à Plaisance du Touche. Et les collégiens nous ont remis le prix du public en nous disant qu'ils aient choisi ce film parce qu'il est unifié. Alors je me dis, bon, c'est déjà bien que les collégiens aient adhéré à ça, qu'on puisse leur raconter quand même cette histoire, cette seconde guerre, même si dans sa période sombre, la rendre de nouveau, j'allais dire, visible. D'en parler, de mettre un coup de projecteur, je pense évidemment que c'est un gros challenge parce qu'on est dans une époque où on est en perte absolue de repères et il faut relire notre socle commun, notre histoire commune. Alors j'allais dire, j'ai été un peu débordé par ce que raconte le film et tant mieux.
J'imagine que c'est un film aussi avec tout un poids, un film à costume aussi, avec la technique aussi. J'imagine que vous, en tant que réalisateur, c'est votre premier film historique.
Oui, c'est vrai que ça peut toujours impressionner hein, de reconstituer une époque et même intimider parce que quand vous arrivez un matin et que vous avez l'armée allemande, l'armée de la Wehrmacht qui bat le pavé avec un énorme calico nazi, vous cherchez votre caméra pour vous rassurer. C'est quand même le film historique vous emmène au-delà de ce que vous pensez. Vous reconstituez quelque chose de terrible qui s'est produit. Pour autant, il faut Il faut, c'est vrai qu'il y a un cahier des charges important, il faut gommer toutes les anachronismes, tout ça, mais il y a une facilité quand même. L'avantage d'un film historique, que ce soit dans les décors, dans les costumes, il y a une cinématographie aussi évidente. Ça veut dire que le cadre, finalement, est peut-être plus facile que de faire un film aujourd'hui dans un quotidien. Il y a quelque chose d'assez cinématographique, immédiat.
Vous êtes qui exactement ?
Arrête ! Empire !
Fuyez ! Partez ! Partez !
Tu crois en Dieu ? Un petit peu moins depuis que je suis juif.
Et puis, vous aimez bien aussi, dans votre cinéma, ici, mettre l'accent sur, vraiment, un couple ordinaire, hein, qui est ici joué par Benoît Poelvoorde et Audrey Lamy.
Oui, alors, eux, j'ai beaucoup de chance de les avoir avec moi. Que ce soit Audrey Lamy, qui est d'une précision inouïe dans son jeu, d'une générosité, d'une humanité, comme Benoît Poelvoorde. Ils ont tous les deux cette singularité, cette humanité qui vous permet de jouer beaucoup plus loin, de pousser les curseurs avec le public, parce que ces personnages-là, vous n'allez jamais les trouver antipathiques. Au début, ils vont vous énerver, vous pouvez les trouver, un peu stupides. Pour autant, vous ne les détestez pas. Et en fait, pour moi, ils reflètent vraiment cette image de personnages ordinaires qui ont traversé la France. Et encore une fois, qui sait comment nous aurions-nous réagi durant cette guerre ? Est-ce qu'on aurait été dans la résistance ? Est-ce qu'on aurait caché des gens ? On ne sait pas, donc il ne faut jamais porter un regard trop sévère. Mais ces personnages-là, et ces deux acteurs, m'ont permis d'y arriver parce qu'ils ont ça en eux. C'est formidable un film, finalement, qui suscite ce questionnement, de se dire... ça veut dire qu'on rentre dans, on rentre dans l'histoire avec eux, on est tout à fait actif avec eux, on subit pas le propos. Donc ça, pour moi, c'est une belle récompense. C'est de se dire... on a tous pensé à ce que nous aurions fait pendant cette guerre, que ce soit la Grande Guerre ou la Seconde Guerre. On s'est tous demandé si on aurait eu... le courage d'y aller, hein, de s'engager. Et le fait de se poser la question, c'est ça aujourd'hui, ça nous renvoie au courage d'aujourd'hui, j'allais dire au silence aussi d'aujourd'hui, ou j'allais dire à l'indignité, ou au manque de courage d'aujourd'hui. C'est en ça que c'était donc important de le faire.
Beaucoup de rencontres, j'imagine, notamment avec ces collégiens, ces lycéens, il y a eu des belles rencontres avec le public pour ce film.
Ah, c'était un moment, je me dis, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que... se rencontre avec le public, on a fait des débats, j'ai entendu finalement les gens partager les mêmes inquiétudes, parfois la même indignation, et surtout c'est la seule fois où on sait si on a bien ou non travaillé, c'est le public. Et c'était important pour moi de parcourir toute la France pour rencontrer le public à cause de ce sujet, de cette histoire, et c'est comme ça que j'ai réalisé que ce film-là finalement avait vraiment une vocation populaire, si certains en doutaient. Et pour moi, c'est vraiment la réponse à sa réflexion et à son travail. Il n'y a qu'en rencontrant le public. Et là, j'ai eu la chance d'avoir pu le faire. Et je me dis, heureusement, j'aurais jamais voulu affronter juste une sortie sec sans avoir vu le public avant. C'est le seul baromètre possible pour nous.
Des festivals qui comptent en France, dont celui du Arras Film.
Ah, écoutez, Arras Film, pour nous, c'est un écrin sublime. C'est un public complètement enthousiaste, c'est une organisation... C'est à chaque fois des affiches, une programmation. C'est un festival aujourd'hui très important. Quand on en parle, oui, aller à Arras Film, c'est être présenté ici, c'est une forme un peu d'aboutissement aussi dans son parcours, et encore mieux pour clôturer une tournée. Mais ça reste, pour moi, c'est un festival qui est en train de devenir un festival majeur. En tout cas, c'est un festival totalement dédié au cinéma, et pour nous, c'est des ambassadeurs en or.
Merci Pascal Elbé. On rappelle que vous êtes scénariste et réalisateur du film La Bonne Étoile qui sort ce mercredi. Merci à vous.
Merci à vous.
Si tu veux vraiment qu'on y croit, va falloir ça.
Quoi ?
Sur Radio Scarpe Sensé.
Carnet de festivalier au Arras Film Festival.